dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. John Linden à la présentation, Michel Joseph à la production. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 19 janvier 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des primaires républicaines. Donald Trump a remporté lundi soir dans l'Iowa la première des primaires républicaines, une victoire écrasante annoncée une demi-heure à peine après le début du vote et qui consolide son statut de grand favori de la droite pour la présidentielle de novembre. Le magnat de 77 ans, quatre fois inculpé au pénal, laisse loin derrière lui ses principaux rivaux Ron DeSantis et Nikki Haley avec 51% des voix, selon des résultats quasi définitifs. Il se rapproche ainsi d'un probable duel final avec le démocrate Joe Biden, l'actuel occupant de la Maison-Blanche. Même s'il compte moins de 1% de la population des États-Unis, l'Iowa occupe une place de choix sur la scène politique américaine depuis plus de 50 ans, car cet État donne un premier ton dans la saison des primaires. La semaine prochaine, le New Hampshire organise ses primaires. Pour nous accompagner tout au long de ce programme, Junior Bonpetit est à Dallas. Vous êtes républicain, partisan de Donald Trump. Bonsoir, Junior Bonpetit.
Bonsoir, John Lyndon, et bonsoir à tous nos auditeurs.
Merci d'être là, Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Mohamed Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous renouveler votre fidélité. Professeur Jean-François Seznec, vous êtes économiste et directeur de Lafayette Group. Bonsoir et bienvenue.
Merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs et à nos collègues.
Alors, merci donc à vous tous d'être là. Jean-François Seznec, je commence par vous. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette tradition des primaires dans l'Iowa qui remonte, on la disait, quand même à une cinquantaine d'années aujourd'hui? Je veux dire, pourquoi l'Iowa et pas, par exemple, le Maryland où vous vivez?
Ben écoutez, je ne connais pas la réponse, je ne peux pas vous le dire, mais je pense que c'est parce que l'Iowa est un État qui a besoin de montrer qu'ils ont de l'importance et les partis aiment beaucoup aller montrer qu'il y a des gens dans l'Amérique profonde, si vous voulez, qui ont une importance politique.
Qui ont une voix et un message à passer. Mohamed Mbodj, on l'a donc dit tantôt, Donald Trump est donc en première position lors de ces primaires de l'Iowa, dévançant, on l'a dit, Ron DeSantis et Nikki Haley. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce classement de Trump qui n'a même pas participé aux autres débats?
C'est parce que l'électorat de l'Iowa est très chrétien fondamentaliste, donc et très blanc, et c'est ce groupe-là qui soutient Trump le plus dans tous les domaines depuis 2016, 2020 et maintenant. Donc il n'y a aucune surprise, on s'attendait à ça. Certainement, on pensait que peut-être DeSantis aurait grignoté quelque chose, peut-être Nikki Haley, mais en fin de compte, il a tout raflé en quelque sorte. Et encore une fois, c'est vraiment la composition même de cet État qui fait que c'est un État qui est fondamentalement et très, disons, anormalement blanc et chrétien fondamentaliste, ce qui représente des conditions tout à fait fantastiques pour la propagande, pour ce que Trump dit.
Junior Bonpetit, même Joe Biden l'a reconnu dans un message d'appel aux dons. Donald Trump est devenu l'honnête favori, dit-il, chez les Républicains. Est-ce que c'est un choix que vous êtes, dont vous êtes fier et que vous allez accepter? Quand je dis vous, c'est vous les Républicains.
Oui, Donald Trump, ce n'est pas parce qu'il est Donald Trump que nous, les Républicains, nous le préférons. C'est par rapport à son quinquennat, son mandat. Tant que président aux États-Unis, nous avons vu les records, nous avons vu l'économie, nous avons vu comment les États-Unis, même l'image des États-Unis à l'extérieur, comment les pays étaient respectés. Nous avons vu la sécurité dans nos frontières, l'économie était bonne. Vous savez, c'est ces records-là qui font à ce que nous puissions soutenir le candidat Donald Trump. Et le peuple a parlé, et c'est notre favori, c'est notre joker, et nous allons gagner les élections en décembre, en novembre de cette année.
Jean-François Seznec, Junior Bonpetit parle là d'un bilan qu'il peut qualifier de reluisant pour Donald Trump. Mais Donald Trump a quand même été inculpé au pénal au moins 4 fois. Et la question qu'on continue de se poser, ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre dans le système politico-judiciaire américain, c'est comment est-ce qu'on peut avoir autant d'affaires en justice et quand même être en mesure de devenir président de la République?
Écoutez, dans un sens, c'est ce qui cause le fait qu'il a beaucoup de chance, parce qu'il est inculpé, mais il n'a pas été condamné, si vous voulez. Donc, et beaucoup des cas qui ont été faits contre lui, beaucoup de mises en justice ont été quand même assez politiques, faut reconnaître. Même beaucoup de démocrates le reconnaîtront. Ça ne fait donner du support, si vous voulez, aux gens qui préfèrent Donald Trump parce qu'ils le voient comme une figure qui a été vraiment martyrisée et qu'ils ont besoin de prendre une position pour Trump.
Mais Jean-François, dans la même position, beaucoup de politiques ont perdu qui leur poste, qui leur pouvoir, qui leur carrière politique. C'est quand même un phénomène.
Oui, c'est vrai. C'est un phénomène, effectivement, mais à l'heure actuelle, dans le pays est tellement divisé que tout ce qui est vu comme étant le martyr de Trump, si vous voulez, devient vraiment la raison pour laquelle il faut le supporter, même si c'est vraiment basé sur pas grand-chose.
Alors, ses supporters, Mohamed Bodj, Trump en aura besoin si les choses restent en l'état. On pourrait bien avoir un duel retour Biden-Trump en novembre prochain. Si un tel scénario venait à se concrétiser, quels seraient pour vous les points forts et les points faibles de l'un et l'autre candidat?
Certainement l'économie. Contrairement à ce que mon ami de Houston a dit, en fait, l'économie américaine se porte mieux, se porte bien sous Biden, avec l'inflation qui est maintenant maîtrisée et la croissance qui est revenue. Et d'ailleurs, il faut même noter que l'inflation que les partisans de Trump mentionnent, en fait, date même de la politique de Trump lorsqu'il a interdit des produits chinois, lorsqu'il a plus ou moins fait en sorte de créer une surenchère sur le prix de ces marchandises venant de Chine. Il se peut que ce qui se passe au Moyen-Orient et une influence sur le vote. Si la crise persiste et si elle s'étend et devient plus violente, évidemment, le gouvernement en charge, donc Biden, devra rendre des comptes. Donc ça, c'est un facteur qu'il faudra regarder. Il y a aussi l'enthousiasme. Il semble que pour l'instant, comme l'ont dit mes deux collègues précédemment, il y a un certain enthousiasme, disons, pour supporter celui qui est martyrisé pour aller donc du côté conservateur. Mais ce n'est pas évident du tout que face à ce que Trump promet, que les électeurs noirs, les électeurs minoritaires, les électeurs hispaniques, les électeurs plus jeunes vont simplement donc être moins présent. Il se peut que vers la fin de cette campagne, lorsque le péril est dans la demeure, cet électorat se réveille, se manifeste et renverse la vapeur comme il l'a déjà fait dans l'élection précédente. Et la troisième et dernière condition, évidemment, ce sont les affaires de Trump. Il a été déjà condamné au civil. Il se peut qu'il soit condamné au pénal. Il se peut même que finalement les retombées de janvier, du 6 janvier, donc 2021 vont le rattraper, 2020 pardon, vont le rattraper en quelque sorte, et que maintenant lorsque tous ces procès se soient déroulés et que il est très clair que c'est lui qui était le maître d'œuvre de l'insurrection qui a envoyé le Capitole, je suis sûr que beaucoup d'indépendants qui sont un peu sur la touche et qui regardent faire vont certainement basculer du côté de Biden.
Alors, vous écoutez l'Amérique et vous, on vous revient dans une fraction de seconde, le temps d'une pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, ce soir, nous parlons des primaires qu'il y a eu lieu dans l'Iowa et des primaires qui arrivent notamment dans le New Hampshire. Junior Bonpetit, malgré les déboires de Trump avec la justice, malgré ses paroles parfois jugées déplacées aussi bien à l'égard des femmes, des musulmans, des Africains et d'autres groupes ethniques, et malgré son bilan que vous avez jugé élogieux, mais que certains trouvent mitigé, Donald Trump continue quand même de bénéficier d'une très grande cote de popularité chez les républicains. Qu'est-ce qui explique une telle popularité? Est-ce que vous n'avez pas d'autres leaders dans le camp républicain qui pourraient faire l'affaire?
Merci beaucoup, John, pour cette belle question. C'est que l'opinion publique américaine aujourd'hui n'est pas dupe, vous voyez. Alors, ils ont constaté tous ces déboires judiciaires. C'est Trump est victime. C'est politique. Ils veulent éliminer un candidat de taille aux élections. Voilà pourquoi qui justifie cette montée de Donald Trump dans l'opinion publique, non seulement au côté républicain, mais aussi en général, les indépendants et même les démocrates. Ils constatent, même le co-débatteur a dit ça, même les démocrates constatent que si c'est de l'injustice, deux poids, deux mesures. Alors, le deuxième point, c'est que ce qui va jouer en novembre prochain, c'est sur l'économie. J'ai dit encore l'économie parce que l'économie, pendant Donald Trump, tout l'Américain moyen s'est retrouvé. L'inflation était tellement maîtrisée. Le prix du gaz, les denrées alimentaires étaient vraiment maîtrisées. Le troisième élément qui va jouer, c'est l'immigration. Et la frontière avec ces passoires que nous avons dans la frontière sud des États-Unis. Donc ça, l'opinion publique américaine est contre cela. Et ça joue énormément. Le quatrième point pour finir, ça sera sur les guerres, le front avec la guerre Hamas et Israël, Ukraine et Russie. Et nous connaissons bien la position de Donald Trump. Une fois arrivé au pouvoir dans les 24 heures, il va résoudre ces problèmes. Et l'Américain a besoin d'un bon leadership, un leadership fort et visionnaire que Donald Trump a démontré lors de son quinquennat. Le frontement Biden-Trump, cette fois-ci, ça sera différent parce qu'en 2020, Biden n'a jamais été président. Biden n'a jamais eu un bilan. Maintenant, Biden aura un bilan. Ce sera bilan contre bilan, le bilan de Trump et le bilan de Biden. Et l'opinion publique américaine sait voir ça. Donc, nous serons là le 5 novembre de cette année. Donald Trump sera le 47e président américain parce que les records sont là. Et tout ce qui est comme poursuite judiciaire, c'est tous ces politiques, ça va tomber et il sera élu par la majorité des Américains.
Junior Bonpetit, j'avoue que je ne cache pas mon admiration à vous écouter défendre Donald Trump. On a l'impression de l'écouter lui-même. Jean-François Cesnec, la prochaine étape des primaires, c'est le New Hampshire. Est-ce que les autres candidats républicains ont une chance de se rattraper? Je pense notamment à ceux qui étaient déjà dans la course avec Trump, tout au moins les deux suivants, Nikki Haley et Ron DeSantis, qui étaient déjà donc dans l'Iowa.
Oui, je pense que beaucoup de gens pensent que Nikki Haley a une très bonne chance. Elle a beaucoup travaillé sur le New Hampshire avec beaucoup de ses partisans. Elle a une bonne chance peut-être même de gagner le New Hampshire. C'est parce que beaucoup dans le New Hampshire, les indépendants ont le droit de voter à cette primaire. Donc, les gens plus... enfin, moins extrême, si vous voulez, pourrait la faire passer en tête. Ce serait assez extraordinaire quand même, mais enfin, elle a une possibilité. Là où, après ça, vous avez la Caroline du Sud, je pense, où elle est l'ancienne gouverneure, mais là, Trump aura sans doute beaucoup plus de chances. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais je pense que ce qui n'est pas très bon, c'est que pour DeSantis, c'est qu'il a vraiment très peu de chance en New Hampshire.
Mohamed Bodge, sur la même question, aussi bien Nikki Haley que Ron DeSantis et d'autres semblent être là en stand-by, en attendant de voir ce qui va arriver des procédures judiciaires de Trump. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où Trump est écarté de la course par la justice? Et finalement, qui vous voyez dans le camp républicain?
C'est une probabilité très faible, certainement, avec tous les appels qu'il est possible d'interjeter, etc. Je pense que Nikki Haley est très bien positionnée pour l'instant, ce qui d'ailleurs est démontré par les attaques de Trump contre elle. Elle représente, elle peut ressembler un petit côté moins extrémiste, comme l'a dit mon collègue, un peu plus centriste en quelque sorte. Elle peut aussi peut-être convaincre un peu plus l'électorat féminin qui notoirement se démarque de Trump, en particulier avec ses déboires, d'aventures sexuelles qui se passent mal. Donc, je verrais plutôt Nikki Haley plutôt que DeSantis. Pour le New Hampshire, DeSantis est trop conservateur, il est trop... je ne pense pas qu'il puisse faire un excellent score. Il peut faire un bon score, mais pas un excellent score. Par contre, je pense que Nikki Haley peut faire un excellent score au New Hampshire, qui est un État où il y a beaucoup de modérés, il y a beaucoup d'indépendants, comme l'a dit mon collègue, qui vont participer donc à ces primaires. Et une sorte de le vieux conservatisme du Parti républicain qui n'est pas éclairé par le fondamentalisme chrétien. Donc, c'est ce qui domine au New Hampshire. Et là, Trump ne me semble pas être triomphant comme il peut l'être ailleurs.
Junior Bonpetit, dans le camp républicain, Nikki Haley à la place de Trump, ça vous dit?
Non. Nikki Haley, peut-être prochainement, mais pas cette fois-ci. Personnellement, je préfère le gouverneur Ron DeSantis qui est Nikki Haley.
Pourquoi? Parce que c'est une femme?
Non, parce que c'est débat d'idées, c'est débat de policy, ce que tu penses projeter, implémenter, ce n'est pas loin de là de son genre. C'est ici, c'est débat d'idées. Je soutiens les femmes, mais je pense que mon choix, à part Donald Trump, c'est le gouverneur DeSantis.
Jean-François Cesnec, côté démocrate, les choses, sauf changement de dernière minute, les choses sont... je veux dire, semble déjà arrêté pour le moment. C'est bien Joe Biden qui sera le candidat des démocrates. Est-ce que c'est une candidature solide à votre avis, surtout avec le débat actuel sur l'immigration et même le fait qu'au sein du camp démocrate, on a l'impression que les gens disent beaucoup de choses, mais tout bas?
Oui, c'est vrai. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. La candidature n'est pas sûre, à mon avis. Bien sûr, sur le papier, c'est sûr. Mais en pratique, beaucoup de gens se posent des questions sur l'âge de Biden, sur le fait qu'il y a des gros problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre au Moyen-Orient, et le problème de la frontière qui a été très bien discuté, montré par Junior et Mohamed. Il se pourrait qu'il y ait des changements quand même entre maintenant et au moins l'été quand il y aura les conventions. Et on pourrait peut-être dire la même chose du côté républicain. Il faut se dire que les deux candidats sont quand même vieux et il va falloir qu'ils tiennent parce que c'est quand même très très dur ces campagnes électorales et physiquement, il faut que les deux candidats puissent durer. Et vous savez, à ces âges-là, que je connais bien, malheureusement, on peut avoir des problèmes.
Hein. Oui, Mohamed Mbodj, Jean-François parle de l'âge et du président et des candidats. Essayons de faire un parallèle avec le continent africain. Très souvent, on reproche aux leaders africains d'être vieux et de vouloir demeurer au pouvoir. On n'est pas très loin de cette scène ici.
Bien sûr, avec Paul Biya au Cameroun, Bongo qui est parti presque grabataire, et Mugabe, etc. Donc on a des exemples, Bourguiba, bien entendu. Donc certes, il y a des exemples pareils, mais dans des contextes beaucoup moins démocratiques, disons. Et il est certain que beaucoup d'analystes pensent que Biden peut-être ne se serait pas représenté si Trump ne s'est pas présenté, car d'une certaine façon, Biden et beaucoup de démocrates, peut-être même la majorité des démocrates, pensent qu'il est un peu l'antidote de Trump, puisqu'il a déjà battu une fois, il est peut-être capable de le battre une seconde fois. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le rapprochement avec l'Afrique, pour ce qui est du chiffre, est valable, mais pour ce qui est de la réalité et du géopolitique, non. Je pense que ce que représente Trump, ce que représente Biden, c'est l'âge est certes quelque chose à considérer, mais c'est beaucoup moins important parce que ils auront moins de charges et moins de pouvoir en quelque sorte que les pouvoirs que les présidents africains qui sont quelquefois presque des potentats et contre lesquels il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de cour suprême, il n'y a pas de justice qui puisse rendre des décisions contre eux, il n'y a pas de parti politique d'opposition fort qui puisse faire capoter des projets de loi, des projets de décrets, etc., etc. Donc la situation est très différente. On peut toujours agiter l'âge et en particulier les journalistes adorent ce thème, mais je pense qu'il est superflu et personnellement, je ne pense pas qu'il puisse jouer entre ces deux-là. Maintenant, si effectivement, comme le dit mon collègue Jean-François, quelque chose se passe durant l'été et que peut-être l'un des deux candidats cède la place pour une raison ou pour une autre à quelqu'un de plus jeune. À ce moment-là, certainement, le débat pourra se réouvrir. Mais la différence d'âge, 3 ou 4 ans entre ces deux-là, ne me paraît pas être un sujet de discussion.
Junior, bon petit, très rapidement, vous préférez avoir Joe Biden comme candidat contre votre candidat, Donald Trump, si c'est lui, ou alors vous voulez un autre?
Non, naturellement, nous voulons Donald Trump et Biden, nous allons le battre parce que c'est le candidat le plus faible pour nous, avec tous les records qu'il a, avec tout le déficit sanitaire, émotionnel qu'il présente, nous allons le battre très facilement. C'est les candidats que nous voulons parce que les démocrates n'ont pas d'autres candidats.
D'accord. Alors, on va faire un dernier petit tour de table, 30 secondes chacun, si vous pouvez. Jean-François Seznec, à chaque élection présidentielle des thèmes, quels pourraient être pour vous les thèmes dominants cette fois? L'économie, l'avortement, l'immigration, les affaires étrangères ou un autre?
Je pense que l'immigration va être vraiment très, très important. Les affaires étrangères qui, il y a quelques mois, n'auraient pas vraiment compté, maintenant vont compter énormément. Et bien sûr, l'avortement. Mais je pense que c'est vraiment l'immigration qui va dominer les problèmes.
Mohamed Bouch, vous?
Oui, je pense que l'immigration et la politique étrangère, en particulier, s'il n'y a pas de solution ou si la situation perdure au Moyen-Orient et en Ukraine, certainement on va se retrouver avec ces thèmes-là. Mais il y a aussi certainement l'avortement et les mesures ou la politique, entre guillemets, anti-noire de certaines législatures, de certains candidats au poste de gouverneur dans certains États. Ça aussi, ça peut créer un autre sujet de fond.
Julien Bonpetit, très rapidement.
Je pense que l'immigration, l'économie et la politique extérieure, Ce sont là les trois sujets majeurs qui vont dominer les prochaines élections.
Et on suivra bien sûr tout cela pour vous. C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, présentée par John Linden. Production Michel Joseph, merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir et on vous laisse en compagnie de Rosine Monet-Zéro pour l'information, justement.